Le premier mot. Le premier son. Un paysage.
Les tours jumelles, les mercuriales à Bagnolet.
D'où parlez-vous?
De partout.
Avec ou sans micro?
Avec.
Bonsoir, revoilà Supersonic. La voix que vous venez d'entendre est celle de la performeuse et poète Violaine Lochu. Elle est là. Bizarre d'intervenir en fin de semaine, ce n'est déjà plus franchement la rentrée. Tout le monde a déjà dans les jambes une semaine au moins de retour à la normale. Pourtant, c'est bien la première du Supersonic de la saison et nous sommes ravis de vous retrouver tous et toutes, mais surtout toi. Oui, toi. Excusez-nous cette familiarité, cette simplicité, cette sincérité. Or oui, de sincérité, d'authenticité, il sera question tout à l'heure avec le bioacousticien Bernie Krause, inspirateur de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux qui se tient à Paris à la Fondation Cartier jusqu'en janvier et qui signe chez Actes Sud, coédité par la Fondation Cartier, un manifeste pour la sauvegarde des paysages sonores naturels intitulé « Chansons animales et cacophonie humaine, un propos écolo-radical ». On verra ça tout à l'heure. La culture a ses machines, les machines ont leur culture, chers androïdes, salut à vous, bienvenue, et voici venir celle que vous avez à l'instant entendue, Violaine Lochu, et ça commence en chuchotant.
Moi j'ai un esprit.
Si un jour un monsieur qui disait...
Bonsoir Violaine Lochu.
Bonsoir.
Vous êtes artiste, performeuse, vous avez 29 ans. Vous travaillez à Montreuil, à côté de Paris, en général, mais pas toujours. Vous voyagez pas mal. Ces derniers jours, vous étiez en résidence à l'Indre-Basse, c'est ça, en Moselle, notamment autour d'un projet qui s'appelle l'abécédaire vocal, c'est ça?
Oui.
Et là, on entend la lettre C comme chuchotement, c'est
voilà, ça? Voilà, C comme chuchotement, tout à fait. Donc, cette résidence, elle est organisée par le Centre d'art contemporain, la synagogue de Delme, et l'atelier d'artistes, donc, est à une trentaine de kilomètres du Centre d'art, à l'Indre-Basse, qui est une commune qui a 236 habitants, qui est au cœur du parc régional de Lorraine, avec une réserve d'oiseaux, donc un cadre complètement... idéal pour travailler, et donc j'y ai développé le projet l'abécédaire vocal, où je reprends le principe de l'abécédaire, où je prends chaque lettre, et chaque lettre envoie une dimension spécifique de la voix et du langage, Donc A comme aphonie, B comme babil, C comme chuchotement, D comme dysphonie, E comme espace, etc. etc.
etc. jusqu'à Z comme
zézément.
Ah bah voilà. Mais là, ce sont les voix de qui?
Alors, c'est les voix de 65 personnes que j'ai rencontrées dans le pays du Saulnois, donc là où avait lieu la résidence. Donc, dans différentes structures, donc la synagogue de Delme lors du vernissage, la médiathèque de Delme, l'école maternelle Le Blé en Herbe, enfin, un ensemble de structures de ce territoire-là qui m'a permis.
Vous, voilà. Dans ces endroits-là, vous créez un lieu pour le recueil de la parole, vous posez des questions aux gens qui viennent parler. Comment vous suscitez la parole et comment vous créez, ou pas d'ailleurs, les conditions de recueil de la parole des autres?
Alors, je vais directement vers la personne.
Ouais.
Parce que je pense que si on laisse le choix, j'ai déjà essayé, c'est beaucoup plus rare que la personne ait envie d'elle-même, à part des gens professionnels de la voix. Mais, donc, je vais plutôt à la rencontre de la personne et je la prends dans son environnement quotidien, là où elle est à l'aise. Évidemment, dans un espace un peu confortable, quoi, dans la médiathèque, par exemple, dans un petit coin de la médiathèque. Et elle se confie. Donc, et je lui pose des questions très simples, en fait. Chuchotez-moi quelque chose, hurlez-moi quelque chose, parlez-moi de votre voix, etc. etc.
Est-ce que tout le monde sait chuchoter?
Pas tout le monde.
Ouais.
Il y a des gens qui n'arrivent pas à chuchoter, donc c'est intéressant aussi.
Et c'est vrai qu'on entend là parfois des voix qui ressortent un peu plus, qui sont un peu plus timbrées, alors que justement il faut un peu effacer ça quand on chuchote. Là, on est déjà au cœur de votre travail, Violaine Lochut, c'est-à-dire de, je ne sais pas si le mot vous convient, mais de décortiquer à la fois la parole, le langage, la voix, ces choses qui se tressent complètement dans votre travail.
Oui. Tout à fait, puisque là, ce qui m'intéressait dans le chuchotement, par exemple, c'était la matière même de la voix. Donc, c'est très particulier, parce que il n'y a pas de vibration des cordes vocales. Enfin, la voix passe, il n'y a pas de son timbré émis. Et à la fois, donc, qu'est-ce qu'on chuchote? Qu'est-ce qui se dit à bas bruit? Donc, à la fois, donc, justement, là, on rentre dans le signifié. Enfin, dans ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'on chuchote? On chuchote des confidences, une rumeur, une médisance, un secret. Voilà, ce genre de choses. Donc, les gens m'ont, je leur demandais de me confier, en fait, ce genre de contenu.
D'accord. Donc, ils ne chuchotaient pas une quelconque parole. Il y avait aussi, au-delà de l'esthétique de la confidence, vraiment la confidence.
C'est ça. Ouais. Et donc, après, le travail de montage a été de, puisque les gens m'ont confié parfois des choses assez graves, en fait, tout le travail a été de montrer ce qui se disait, le poids de ce qui se disait parfois, et en même temps protéger, camoufler le secret, le tenir bien gardé. Donc, toute la pièce, elle dure 8 minutes, se joue de la texture du chuchotement et de révéler ou cacher la confidence. Elle a été mise, parce que là on l'entend à la radio, mais elle a été aussi mise en espace par un curateur et artiste qui s'appelle Guillaume Constantin, qui dans l'atelier de l'Indre Basse l'avait mis sous un lit. Et les gens venaient s'asseoir sur le lit et entendaient ces voix qui sortaient. Voilà.
Dans votre travail, effectivement, il y a plusieurs moments de, à la fois évidemment, recueil de la parole, d'une manière ou d'une autre, aller vers les gens, et puis ensuite la manière de le rendre, que vous pouvez d'ailleurs, parfois, et on va se rendre compte ce soir, on a un peu de temps pour discuter, que vous pouvez incarner vous-même, ça fait partie, une grande partie de votre travail, il va y avoir deux lives ce soir, et on vous remercie de ça. Ça a commencé comment ce travail-là pour vous? Parce que vous avez aussi un parcours de musicienne en même temps, en parallèle, encore une fois, c'est tressé tout ça. Mais ça a commencé comment pour vous, cette recherche-là?
Elle a commencé il y a très longtemps, je dirais depuis toujours en fait. Donc oui, avec ce double parcours à la fois, donc je suis issue des Beaux-Arts de Cergy, donc j'ai un diplôme là, DNSEP, donc diplôme de plasticienne, et à la fois donc un parcours de musicienne, d'abord une formation classique en piano, puis un travail sur la musique traditionnelle. J'ai beaucoup voyagé donc en Europe centrale, donc Pologne, Ukraine, Lituanie, les Balkans, la Bulgarie,
la Roumanie.
Vous avez
appris les mystères des voix bulgares, vous avez pris des cours de chant bulgare, non?
Oui, voilà, j'ai commencé à chanter en Bulgarie, parce que ça a été un choc esthétique très très fort en face de ces voix extrêmement puissantes. Et après, donc oui, j'ai rencontré des maîtres, et surtout donc celle qui m'a beaucoup appris au niveau de la voix, c'est Martina Catella, donc qui est une très grande pédagogue qui est en France, elle, et qui dirige l'école des Globetrotters et qui m'a appris sans que je m'abîme, parce que les maîtres souvent vous disent bah imite. Moi, je suis pas née ici, c'est pas ma culture, donc je me suis aussi beaucoup bousillée la voix à un moment donné en imitant justement les voix bulgares, les voix italiennes. Donc Martina Catella a eu quand même un rôle très important dans ma formation, pour éviter de me faire mal dans cette imitation. Voilà.
Et la question du... Alors là, on va dire de la... Non pas du chant, mais du recueil des mots, du recueil de la parole, de l'usage des mots. C'est apparu comment ? C'était justement pendant les Beaux-Arts ? C'est pendant les études ?
Non, c'est venu, comme je disais, lors de ces voyages où j'ai d'abord collecté des chants, des musiques, et puis rapidement, je me suis mis à enregistrer. Ouais. Les gens parlaient aussi de leur culture. Et puis, tout ce que je veux dire, peut-être qui a officialisé un peu cette pratique qui était un peu officieuse, on va dire, c'est la première résidence que j'ai faite, donc au 116, au Centre d'art contemporain de Montreuil, où j'ai décidé de travailler sur la mémoire orale et collective. Et je suis allée rencontrer donc 200 personnes à Montreuil et je leur ai demandé de me confier quelque chose qu'elles connaissaient par cœur. Et donc là, j'ai enregistré ces voix et au fur et à mesure, voilà, ça c'était une première pratique. Et au fur et à mesure des projets, ça s'est développé et pour devenir un peu le cœur même de mon travail en ce moment, quoi.
La question de la mémoire est présente, notamment dans un travail qui s'appelle Mémoire Palace, on va en reparler. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle de... Justement, il y a un projet qui s'appelait Animal Mimesis, qui est directement lié justement à la qualité d'artiste contemporain. C'est un travail sur la parole de l'artiste contemporain. Il faut savoir parler de ce qu'on fait. Là, il y a une dimension... Alors, je ne sais pas si c'est, on va dire, critique, mais en tout cas un peu acide des choses. Ça fait sourire d'ailleurs quand on entend Animal Mimesis. C'est, l'idée est venue comment ?
Alors l'idée, elle est venue lorsque j'étais donc en résidence à la Boxe, la galerie de l'École nationale des beaux-arts de Bourges. Et donc à ce moment-là, je me suis demandé, je vais faire un travail, mon travail porte sur le langage. Donc qu'est-ce qui se transmet dans une école d'art ? C'est, je pense, beaucoup le langage justement. Et au-delà du langage, enfin un langage au sens élargi du terme, on pourrait même parler, pour prendre un terme un peu sociologique, d'habitus. Et donc voilà, ce qui se transmet dans une école d'art, c'est certes une pensée, certains savoir-faire, mais surtout une manière de s'adresser à un milieu et de s'approprier un certain nombre de codes, de signaux, pour pouvoir s'adresser à ce milieu spécifique qu'est le milieu de l'art contemporain. Et donc cette performance, justement, c'est interroger la dimension collective de ce qu'on appelle la parole d'artiste, qui est très presque sacralisée. Mmh. Alors la parole d'artiste, ce serait, quand on parle en tant qu'artiste, on révélerait une vision du monde subjective, individuelle. Donc certes, là, au moment même où je parle, je suis en train de le faire, évidemment, je dis des choses qui me sont propres, qui me sont très intimes et personnelles, mais à la fois, j'utilise une manière de parler que j'ai incorporé de manière plus ou moins consciente lors de mon passage aux Beaux-Arts et lors de la vie en général. On appartient tous à des milieux socio-professionnels où on acquiert un certain jargon, certaines tournures de phrases, un certain rythme de voix, de timbre. Et donc c'était l'ensemble de ça que j'ai voulu interroger dans Animal Mimesis.
Illustration de ça, Violaine Lochu.
Ben c'est en fait, c'est pas une pratique, c'est des pratiques. Donc elles sont vraiment diversifiées. Et elles se sont, depuis maintenant assez longtemps, elles ont toutes un statut d'équivalence. Enfin, il n'y a pas vraiment de hiérarchie assez horizontale entre, disons, une pratique.
Pratique, je dirais pas paralittéraire, mais pas exactement la littérature, et qui, dans le champ de l'art contemporain, sont un petit peu différentes de ce que pourrait être la poésie concrète ou toute une tradition d'artistes qui font de l'écriture, que ce soit Heidsieck ou Chopin, des gens qui ont vraiment travaillé sur le...
Même une question qui a énormément bougé ces dernières années, puisque les artistes s'en sont emparés, donc c'est une forme un peu particulière. C'était sur une clé USB, donc dans un fichier PDF. Donc en fait, j'ai enchevêtré plusieurs ready-made, et donc ça prenait une forme de diagramme.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des et aussi
sous une forme d'un... qui s'inspirait des souvenirs que j'avais de l'expo de sur Franck Guéry, sculpter la forme
en forme ou un forme
très organique.
Mais la forme me plaisait et c'est quelque chose d'avoir juste cette ligne noire dans l'espace que je trouvais.
Là, pour ce projet-là, je voulais vraiment essayer de convoquer une espèce d'esthétique muséale. Du coup, ce travail d'installation-là, enfin, de mise en espace,
elle fonctionne. Enfin, elle est pensée au moment où il faut montrer
les pièces sous forme d'archives, mais les archives sont à nouveau réactivées comme extension des pièces.
Pièces que j'ai pu nommer comme pièces.
Pièces, autant que ce que ça raconte soit plus intéressant que chaque pièce.
Pièce un peu conceptuelle, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois...
Réaliser donc la pièce.
Produire des pièces.
Subir mes pièces.
Créer des pièces.
Titrer mes pièces.
Parler d'une pièce.
Faire une pièce dans laquelle il y a des savoir-faire qui sont présents, de la représentation du monde du travail. Je me suis beaucoup intéressée
pour mettre en situation des situations de parole, je dirais entravées ou empêchées. Donc ce dédoublement m'intéresse.
Et du coup, en travaillant des médiums comme le dessin, comme la sérigraphie,
aller vers la vidéo,
de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la vidéo, son et photographique,
iconographique, textuel, sonore,
comme l'impression 3D. Enfin voilà, en ce moment, je travaille
à faire du travail
plastique, mais j'en fais pas un travail.
Qui c'est un travail plus lié à ce que j'appelle un travail de plus intime, qui ne se veut pas se connecter à
d'idées prédéfinies.
Travail intéressant parce que travailler à partir de sur la représentation, enfin sur ce travail-là. En tout cas.
Et du coup, par rapport à
mon travail, en fait,
qu'on mettra forcément
à mon travail,
avec qui je pourrais rapprocher
mon travail.
Alors mon travail, qui nourrirait mon travail.
Mon travail, mais...
Une pièce sonore intitulée Animal Mimesis par Violaine Lochu. En fait, une étape de votre travail sur ce projet Animal Mimesis, sur la langue de l'artiste, de l'élève en école d'art. Donc, je dis une étape. Ce qui est étonnant, c'est que quand on diffusait à l'instant donc cet extrait-là, par moment, vous étiez en train de parler à leur place, vous étiez en train de bouger les lèvres en même temps que les gens que vous aviez interrogés. Et pour cause que l'étape suivante pour Animal Mimesis, eh bien, c'est ce qu'on va entendre là, extrait d'une performance. Et voilà, c'est vous, Violaine Lochu.
J'aime le cinéma nigérian. Ça va de Liu Fan à Jamel Tata ou Perek. Perek parce que c'est un artiste américain qui s'appelle Kelly Walker, qui est un artiste qui travaille beaucoup à la manière de Gerhard Richter, donc sur cette appropriation de la peinture. Bon, c'est là qu'est sorti Jim Shaw, c'est là qu'est sorti Mike Kelly, Baldessari était prof là-bas, Baldessari, Derrida, oui, pour un livre L'animal, donc je suis bizarrement Derrida, oui. Et à ce moment-là, donc, j'ai découvert Jeannette Rüstein, mais aussi Patricia Piccinini, qui transforme des auteurs comme Adolf Loïs, entre Buster Keaton et Marcel Duchamp, parce que le plus grand artiste du monde, c'est quand même Marcel Duchamp, et je penserais à Elodie Lesseau, je penserais à Corbion Roland, je penserais à Damien Deroubet, à Ben Violette, à Grégory Kugel, par exemple, le travail de Jeff Koons, à Amand Corrie dans une moindre mesure, à Steven Scherer, bon après, il y a Burtinsky, plus récemment Chris Jordan, il y a Paul McCarthy, Henri Salah, Charlotte Mourman, Charles Levin, il y a David Hockney, Thomas Hirschhorn, Mathieu Barnet, Valdir Export, Tanish Kapoor, Gérard Richter, Boris Achour, Hamza Kiefer, Damien Hirst, Richard Prince, Philippe Bourgeois, Biviola, Gina Pan, Nan Goldin, Villeneuve, Benoît Maire, Joseph Beuysen, Sacque Kessari, Martial Raju, Armand, Roland Christo, César Calder et Deleuze.
Alors, il faut quand même préciser, bien Lochu, que ça, c'est une captation d'une performance. C'est pas un montage. Les ruptures, les changements de voix, les changements de ton, les changements d'accent que vous les faites, vous, face à un public, et vous reprenez, en fait, vous incarnez la parole des autres. Et ça, c'est... j'ai l'impression que... J'ai pas vu le mot poète, mais c'est un travail poétique que vous faites avec la langue.
Alors, je ne me dirais pas poète, parce que... Ou alors peut-être dans un sens très élargi, puisque je ne crée pas. Je ne crée pas des mots, des phrases, du texte. J'associe.
Ouais.
Et
Aujourd'hui, donc, c'est un travail poétique.
Donc c'est un travail poétique, mais ça s'éloigne peut-être de l'idée traditionnelle qu'on pourrait avoir du poète.
Ça rime voilà. Pas. Oui.
Oui. Après, je crée des jonctions et un travail de montage, ouais, de rythme. C'est une oreille aussi très musicale finalement des choses.
Une association d'une oreille sensible aux paroles et sensible à la musique à travers ces pièces-là, effectivement. On a l'impression, dans cette pièce-là, mais dans d'autres, hein, on va continuer à en entendre ce soir dans Supersonic avec vous, de quelqu'un qui garde une forme d'enthousiasme face à la langue, de curiosité face à une langue qui, bien qu'étant la langue française que vous pratiquez, une forme de comme si vous étiez face à quelque chose d'étrange qui vous plaît et vous plongez dedans. Est-ce qu'on peut dire ça?
C'est ça, ouais.
Il y a comme un émerveillement.
Oui, et puis ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire que, bon, sans rentrer dans des détails intimes et psychologiques, mais je ne suis pas, à la base, je n'ai pas su parler avant 6 ans.
D'accord.
J'ai subi des troubles du langage, donc je pense à la base que la langue n'est pas ma maison, mm-hmm. et que je l'ai entendue d'abord de l'extérieur. J'ai dû apprendre à parler lors de séances d'orthophonie, et voilà, il y a eu aussi toute cette période d'aphonie où j'ai eu un travail de rééducation vocale chez l'orthophoniste de nouveau, un passage mm-hmm. chez la phoniatre. Donc il y a un rapport qui n'est pas forcément immédiat, où c'est pas forcément mon univers, et donc une approche comme à distance, comme de l'extérieur. Et donc quand j'entends quelqu'un, au-delà de ce qu'il dit, j'entends, voilà, sa voix, son débit, sa hauteur, ses silences, j'entends la matière sonore de la voix.
Il y a une pièce, on peut faut absolument inviter chacun à aller voir votre site internet pour entendre pas mal de vos pièces, où justement, pour faire écho au chuchotement qu'on entendait tout à l'heure, il y a le mot qui vient, par exemple, ça c'est une pièce mm-hmm. où on entend l'hésitation, peut-être qui nous ramène aussi au tout début de l'émission, oui. quand vous avez répondu à nos petites questions ping-pong, où c'est vraiment les interstices de la langue deviennent matière, alors pas poétique, ne disons pas ça, mais artistique en tout cas. Mm. Je vous propose, Violaine Lechu, de rejoindre les micros qui sont installés là, qui ont été installés par Olivier Dupré, pour une première performance qui va faire suite au chuchotement et à l'abécédaire dont on parlait tout à l'heure, qui a fait l'objet d'un de vos derniers travaux lors de votre résidence en Lorraine. Tout à l'heure, c'était C comme chuchotement. Et bien là, ça va être U comme ululé, et on va constater effectivement que votre travail est un travail sur la voix, sur la parole, mais aussi un travail musical.
Shh.
Et tout ça, c'est fait à la voix, mesdames, messieurs. C'est Violaine Lochu qui est l'invitée de Supersonic sur France Culture. Et je disais, voilà, avec ce type de pièce, U, comme ululé, on se rend compte du lien entre la musique et le recueil de la parole, ou en l'occurrence, le recueil des sons d'oiseaux. Ça, on en parlera tout à l'heure. Il se trouve avec Bernie Krause, le bioacousticien qu'on entendra dans la deuxième partie de Supersonic. Quelle est la méthode, Violaine Lochu, pour construire ce type de pièce?
Alors là, cette pièce-là, je l'ai construite suite à une promenade avec une ornithologue autour de l'étang de l'Indre Basse. Comme je dis, c'est une réserve d'oiseaux. Et donc, elle m'a présenté un certain nombre d'oiseaux. Donc, évidemment, il y a beaucoup de cigognes là-bas. Donc, voilà, j'ai repris le chant des cigognes, de la chouette effraie, de la chouette hulotte, caille des prés, le pouillot véloce, le foulque, le butor étoilé et la locustelle. Et
voilà, donc, que vous avez rassemblé là, ces dernières minutes dans le studio de Supersonic. Comme le temps passe très vite, en votre compagnie, Violaine Lochu, je vous propose tout de suite le deuxième live autour du... Ah oui, c'est du sport, hein. Je suis désolé, mais autour d'une question de la mémoire, là, vous avez recueilli quoi, des comptines, des choses que les gens connaissaient par cœur, c'est ça, lors d'une résidence à Montreuil, pour donner lieu à cette pièce qui s'intitule Mémoire Palace, et que vous réinterprétez à votre tour, c'est ça?
C'est ça. Donc ce que je disais tout à l'heure, où je leur ai demandé quelque chose qu'elles connaissaient par cœur, donc en effet, recettes de cuisine, blagues, poèmes, chants, règles du jeu, voilà, tout ce qu'on peut connaître par cœur aujourd'hui.
Mémoire Palace, Violaine Lochu.
Quand il fut de retour dans sa patrie, le sage Ulysse, son vieux chien de lui se souvint. Près d'un tapis de haute lisse, sa femme attendait qu'il revienne. L'époux royal de sa compta, las de vaincre, se réjouit quand il la retrouva plus pâle d'amour et d'attente, yeux pâlis, caressant sa gazelle mâle. J'ai pensé à ces rois heureux, lorsque le faux amour est celle dont je suis amoureux.
T'es amoureux d'elle, et j'entends dire t'es pas fait pour elle. Tu réponds pas au tel, tu pètes les plombs, tu fais ton bordel. Talent, rimmel, trop pour elle, tes potes autour d'elle. Tu fais le même qui t'en tape, mais tu meurs pour elle. Elle en profite, oui ça va trop vite. Elle te fait croire que lui sa cousine, mais sur la piche, champagne, bordel, tout le monde la kiffe. Sur les joues ça lui fait des kisses, si c'est plus fort qu'elle. Oh mais c'est conquille, fais fancy, l'envoie sans mot. Claque-t-il en saisie tes poissons. Amphipototoi, tan kalan karkatagisa uta, iptoi siroisan, egote kero, kekarotati, toda menfete soiki proiena.
Alors, tu connais la blague du métal le plus dur? Tu sais ce que c'est le métal le plus dur? Eh bien, le métal le plus dur, c'est le vagin. Et tu sais pourquoi c'est le vagin le métal le plus dur? Parce que t'as beau limer, ça fait pas de copeaux. Oh oh oh, Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au même, pour te dire que je t'aime et que j'étais dans la peau. Oh oh oh, chez elle ça sentait bon, l'herbe, le patchouli, le parfum des poubelles. Le petit matin avait éclos, sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu ses vépres, les plis de sa robe pourpre et son teint au vôtre pareil. Regardez comme on peut d'espace, mignonne elle a dessus la place. Là, là, ses beautés laissées choir. Au nom marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge de fleur renonce à plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse raternir votre beauté. Ta beauté peut désarmer Al-Qaïda. Après ça dépend si ça ronit, c'est wesh, Béa, comment tu vas? Si c'est à Montreuil, c'est plutôt hé. Hey. Tu te miras vrai bouillave avec moi, je t'offrirai des larmes de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un royaume où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pas, ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, oublier le temps. Vraiment le temps, je regrette et maintenant je prie, faut qu'un jour on se revoie et que tu me pardonnes tout. C'est quand je t'ai perdu que j'ai vu combien tu comptais. On était jeunes, fous, inconscients de ce que l'on voulait. On pensait comme des adolescents, mais au fond s'aimer entre toi et moi, ça aurait pu être si beau, c'est plus fort que moi. J'avoue, je t'ai dans la peau, je t'aime trop. Oh 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 oh
oh. Et tout ça dans la continuité, Violaine Lochu, je disais, c'est du sport, ouais, c'est du sport, c'est du sport pour les cordes vocales. Bravo, vous connaissez tout ça par cœur, ça devient une chanson pour vous, j'imagine. C'est comme ça que ça s'incorpore, la parole des autres, en l'occurrence la mémoire des autres, puisque c'était des éléments recueillis auprès d'habitants de Montreuil il y a oui. quelques mois seulement, c'est ça, l'année dernière?
Non, c'était en 2014, donc c'était il y a 2 ans. Et mmh. là, c'était, ça, enfin, c'est particulier, c'est bâti donc sur, à partir de l'anadiplose, donc où chaque mot de la dernière phrase devient le premier du suivant. Et ici, c'est autour de l'amour, donc toutes ces versions de l'amour, donc à la fois Ronsard, Sappho, mais aussi Jules, Layana, ouais. Brel, Renaud, enfin voilà, tout un ensemble de références collectives. Voilà.
Et encore une fois, vraiment quelque chose de frappant à voir en temps réel, de se dérouler devant vous. Et donc tout ce qu'on peut conseiller à chacun, c'est d'aller vous voir. Alors il y a quelques dates que j'ai sous les yeux. Vous serez le 7 octobre au Générateur, c'est à Gentilly. Le 8 octobre à l'espace Chiasma au Lila, tout ça c'est à côté de Paris. Comme à Montreuil, à la Marbrerie le 19 octobre. Et plus près de nous, à Noisy-le-Sec, à partir le 23 septembre pour une exposition. Des mains dans mes chaussures, c'est tout un programme. À signaler aussi quand même qu'il y a ce projet qui tourne régulièrement, qui s'intitule Animalka. Qui tourne notamment bientôt avec Hélène Bréchamp, Serge Tessoguet, guitariste fameux qu'on a rencontré l'année dernière dans l'émission, fait partie aussi d'Animalka. Et puis il y a Marie-Suzanne Deloye à la viole de gambe.
Alors Marie-Suzanne Deloye à la viole de gambe dans ce duo Animalka, donc avec rencontre avec Hélène Bréchamp, Serge Tessoguet et Lotus et Découry qui est danseuse et chorégraphe également.
Le beau programme, merci encore. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de l'émission.
France Culture, Supersonique de Thomas Baumgartner.
Bernie Krause. Bernie Krause a comme métier la captation des sons de la nature sauvage, de préférence. Lui, Il aime la musique, la pop. Il fait même un des pionniers du synthétiseur, ce qui l'a amené à travailler en duo avec le musicien Paul Beaver, avec les Doors, George Harrison, Stevie Wonder et d'autres. Mais aussi pour le cinéma, notamment pour Rosemary's Baby, Apocalypse Now, Love Story. Mais depuis presque 50 ans, Bernie Krause nourrit une gigantesque bibliothèque de sons de la nature captés à travers le monde. Et depuis quelques années, il double cette pratique d'une recherche théorique qui l'amène à développer la notion d'écologie du soundscape, écologie du paysage sonore. Son dernier livre, Chansons animales et cacophonie humaine, coédité par Actes Sud et par la Fondation Cartier pour l'art contemporain, est sous-titré Manifeste pour la sauvegarde des paysages sonores naturels. Sous des dehors très tranquilles, Bernie Krause est un écologiste radical pour qui le son de l'activité humaine est une pollution. On a parfois envie, à la lecture de ce livre, de rapprocher Krause de Henri David Thoreau, la société humaine à fuir, tout ça. Il n'empêche, les sons qui disparaissent ou se transforment sont des indices encore mal connus et peu traités d'une nature en pleine transformation et détérioration. Bernie Krause donne des outils et prête son oreille exercée à la question et appelle à ce que d'autres prennent le relais. Les travaux de Bernie Krause sont à la base d'une exposition qui dure jusqu'au 8 janvier, le Grand Orchestre des Animaux. Ça se passe à la Fondation Cartier à Paris, boulevard Raspail, dans le 14e arrondissement. C'est là qu'on l'a rencontré lors du vernissage de l'exposition. Fonder une discipline scientifique, c'est assez rare. C'est ce qu'il veut faire avec l'écologie du paysage sonore. On lui a d'abord demandé de nous expliquer ça.
Soundscape ecology is about 15 years old.
L'écologie du paysage sonore a à peu près 15 ans. Le terme est bien plus vieux, en fait. Il a été développé par Murray Schafer, qui est compositeur et naturaliste canadien, et par son collègue Barry Truax, à l'université Simon Fraser, à la fin des années 70. On peut dire que c'est comme ça que le terme entre dans le dictionnaire. Mais ça n'a pas été réellement développé comme une discipline avant 2001. Et ça a été étudié en premier par Stuart Gage à l'Université de Michigan, qui est professeur. Ce qu'on étudie dans l'écologie du paysage sonore, les effets du son dans le paysage. Comment le son et le paysage s'articulent et ce qu'on peut en apprendre, que ce soit un paysage urbain, rural ou dans la nature profonde. Dans mon cas, je me suis toujours concentré sur le paysage sonore, sauvage et naturel. C'est ce qui m'intéresse le plus. Entre autres parce que quand j'ai commencé à enregistrer, à partir de 1968, j'ai trouvé que l'enregistrement du son naturel des animaux dans leur propre environnement me faisait du bien, tout simplement. C'est devenu un travail personnel. Et je fais ça depuis des années. Et à la fin des années 70, je me suis rendu compte que j'étais en train de constituer une très grande bibliothèque d'archives de sons naturels. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Mais la réponse m'est apparue très clairement alors que je travaillais sur un film de Francis Coppola intitulé Apocalypse Now.
It was one of those events that Coppola staged that
Je suis encore en dessous de la vérité quand je dis que sa mise en scène était gigantesque. C'était un événement, un opéra. Je me suis fait virer 8 fois. Mais ce n'était pas grave, parce qu'à chaque fois, je me faisais réembaucher pour un salaire 2 fois plus important. Donc j'aurais bien voulu être viré encore 10 fois, parce que ça devenait une activité très lucrative. Mais à la fin de tout ça, je me suis dit que je ne voulais plus faire ce genre de choses. Ce n'était ni intéressant, ni amusant, et je prenais de l'âge. Donc, à 40 ans, j'ai arrêté la musique. Je suis retourné à l'école et j'ai eu mon PhD en bioacoustique. La bioacoustique, c'est l'étude du son des organismes vivants. Après ça, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce chemin, c'est que je me sentais si bien au milieu de la nature que j'ai voulu y passer ma vie. Et je voulais trouver un moyen d'y passer plus de temps. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu mon PhD, j'ai trouvé les moyens de gagner ma vie en faisant ça. Je n'ai jamais travaillé pour une institution, je n'étais pas employé par l'une ou l'autre institution, mais j'ai travaillé pour beaucoup d'entre elles comme des musées. J'ai créé des paysages sonores de nature pour des musées, pour accompagner des expositions visuelles. Le son avait toujours un rôle d'accompagnement, parce que dans notre culture, ce qui est important, c'est ce qu'on voit. On est très visuel. En Occident, en particulier, tout passe par l'œil, le prisme de l'œil. J'en étais même arrivé à un point où je pensais qu'il n'y aurait pas d'autre opportunité avec le son que celle de l'accompagnement de l'image. Alors je n'ai pas travaillé qu'avec des musées. J'ai aussi créé des licences de ma bibliothèque sonore pour Lucasfilm ou Pixar et d'autres sociétés du même genre qui se trouvaient pas loin de chez nous. Je pouvais vivre de cette activité, mais je ne quittais pas la musique. Je ne l'oubliais pas, parce que j'ai toujours été musicien, et j'envisage les sons de la nature en termes musicaux, essentiellement parce qu'il n'y a pas de langage qui permette de les aborder en d'autres termes.
Mais cette opportunité came along.
Et voilà que cette occasion est apparue grâce à Hervé Chandès et Bruce Albert. Bruce Albert est un anthropologue qui travaille avec la tribu des Yanomami dans le nord du Brésil. Et il a lu mon livre, Le Grand Orchestre Animal, que j'ai écrit en 2012, qui a été traduit en français, mais aussi en allemand, en portugais, en japonais, coréen et plein d'autres langues. Et il a lu le livre et il l'a porté à Hervé Chandès de la Fondation Cartier. Et ils ont imaginé une exposition où le son est le leader et non plus le visuel, où le son serait soutenu par l'image et non pas l'inverse. C'est une distinction très importante. C'est la première fois que ça arrive en Occident et ça n'est jamais arrivé aux États-Unis parce qu'aucune institution n'a imaginé que ce soit possible.
C'est ma question justement, puisqu'il y a cette exposition, le grand orchestre des animaux à la Fondation Cartier jusqu'au 8 janvier. Et pour revenir à cette question de l'image et du son, et néanmoins la question s'est quand même posée de non pas mettre du son sur des images, mais mettre des images sur du son.
And it's more balanced because the what we've done here is we've
kind of turned the Western. Parce que ce qu'on a fait ici, c'est de mettre l'idée occidentale du visuel la tête en bas. Et nous avons utilisé toutes les occasions pour que l'image reflète le son et non que le son reflète l'image. À la différence de ce qui se fait en général avec la bande-son d'un film, par exemple. C'est le plus souvent la dernière chose qu'on fabrique dans la production du film. Dans ce cas, le son est premier. C'est ça qui est remarquable.
That you're talking about, that just was published by Cartier.
Quant au livre publié par la Fondation Cartier et Actes Sud, et qui a été publié initialement par Yale University Press,
and it's more of a didactic.
Il est plus pédagogique et observe le monde du son et explique comment les paysages sonores naturels ont imprégné une culture et comment ils l'ont fait par le passé.
In my previous book. Great Animal Orchestra, I speak about how animals taught us to dance.
Par exemple, c'est ce que j'expliquais aussi dans mon livre précédent, Le Grand Orchestre Animal. Je racontais que les animaux nous ont appris à danser et à chanter. Et dans ce nouveau livre, je prends le parti de dire que non seulement ils nous ont appris à danser et à chanter, mais que le paysage sonore naturel, le soundscape naturel, la biophonie en particulier, a donné sa forme à la religion, la science naturelle, la biologie, l'histoire naturelle, les études environnementales, l'architecture, la littérature, la philosophie, l'économie. Tous ces sujets sont d'une manière ou d'une autre imprégnés par la narration des paysages sonores naturels.
Justement, pour préciser comment vous structurez vous-même votre pensée sur cette écologie du paysage sonore, il y a ces catégories biophonie, anthropophonie, géophonie. Il faut peut-être expliciter ce que sont ces différentes structures dans ce paysage sonore.
Well, we need new language. Again, we have musical language for describing music.
On a besoin d'une nouvelle langue. Encore une fois, nous avons le langage musical pour décrire les éléments musicaux, mais nous n'en avons pas pour décrire le son dans notre culture, quasiment pas. Une des choses que je voulais faire, c'était de casser l'idée du paysage sonore unique pour extraire les différents éléments qui le structurent, ses composants fondamentaux. Et il y a trois sources du son qui sont majeures à considérer. La première, c'est la géophonie, et j'ai utilisé des préfixes et suffixes d'étymologie grecque. Géo voulant dire qui vient de la terre, phone voulant dire son. J'utilise ce mot pour parler du son naturel qui n'est pas biologique. Le vent dans les arbres, les vagues sur le rivage de l'océan, l'eau dans le fleuve, le mouvement de la terre. Ce genre de son. C'est ça, la géophonie, c'était les premiers sons qui ont été émis sur la Terre avant même qu'un seul organisme vivant ait pu les entendre. Puis les organismes sont apparus, ont évolué. Pour vivre, ils ont eu besoin d'un élément acoustique, donc ils ont développé des formes de voix. Puis ces organismes ont dû trouver des niches acoustiques pour que leur voix soit transmise et reçue.
So they developed certain voices. Well, they had to find niches for their voices to be transmitted and received.
That's called partition. Yes. Ce qu'on appelle la partition.
Yeah. And this is what I call the acoustic niche.
Oui, ce que j'appelle l'hypothèse des niches acoustiques.
Every organism.
Ce qui signifie que tout organisme vivant a dû trouver sa niche acoustique. Oui, il a dû trouver sa place sur le spectre des fréquences et sur le spectre du temps.
Another comes in and fills that space.
Parce que quand il y en a un qui arrête de chanter, un autre occupe la place et remplit l'espace libéré. Ce qui est intéressant quand vous jetez un coup d'œil à un spectrogramme, c'est-à-dire une représentation graphique du son, et que vous regardez un spectrogramme d'un habitat sauvage, quand celui-ci est en bonne santé, ces niches acoustiques sont tellement clairement distribuées qu'on dirait une partition de boulez. C'est ce que j'appelle la proto-musique.
It's what I call proto-music. And
avec une harmonie? What harmony?
Well, I'm about to explain that when we lived more closely connected to the natural world.
Quand on vit plus proche de la nature, plus connecté avec elle. Nous autres, les êtres humains, nous ne sommes que des imitateurs. On se croit originaux, on se croit artistes, musiciens, compositeurs.
Jamais. We haven't originated.
En fait, on est à l'origine de rien. Si on regarde de près le monde de la nature, ce qu'on ne prend jamais le temps de faire, parce que ça signifierait abandonner notre propre position de supériorité, on se rendrait compte que presque tout ce qu'on exprime par la musique, la langue et le reste de notre culture vient, dans une certaine mesure, de la nature. Et donc, on a regardé les singes, par exemple, qui battaient en rythme sur des arbres. Et on a appris, comme ça, à faire de la batterie. Et on a écouté les oiseaux chanter des mélodies dans les arbres. Et on a appris, comme ça, à chanter. On a entendu l'orchestration, la proto-orchestration dont je parlais, la biophonie du monde naturel, et on a appris à orchestrer les sons, à compiler les différentes voix de telle manière que ça marche ensemble, de manière cohérente. De la même manière que ça existe dans le monde naturel, on imite ces choses et on est fier d'avoir créé des choses qu'en réalité on n'a pas créées. Une chose peut titiller le lecteur en lisant les propos de Bernie Krause dans son livre ou tout simplement en l'écoutant. Le son lié à l'activité de l'homme est considéré quasi systématiquement comme une pollution ou au moins une perturbation. Comme s'il y avait eu une époque bénie, disparue, génératrice d'une forme de nostalgie, l'époque d'un son pur, un âge d'or improbable du son de la nature. Oui. À coup sûr, avant la révolution industrielle, il y avait beaucoup d'espaces non perturbés qui existaient encore. Mais de manière très intéressante, après la chute du mur de Berlin en 1989, l'industrie, l'exploitation pétrolière, minière, la déforestation, tous ces éléments, eh bien, ça a fait monter la pression sur la nature.
Have increased at an increasing rate. Consequently, many of these habitats are not.
Par conséquent, beaucoup de ces habitats disparaissent rapidement et il est compliqué de les maintenir. 50% de mes archives en 50 ans viennent de lieux qui n'existent plus. Soit ils sont devenus silencieux, soit ils ont tellement changé qu'ils sont méconnaissables.
At the Fondation Cartier exhibit, I have one example from my own area in Northern California.
Dans cette exposition à la Fondation Cartier, j'ai un exemple issu de la zone où j'habite, au nord de la Californie, qui était traditionnellement un endroit avec beaucoup d'animaux et de sons variés. On vit dans un endroit à l'écart, donc il y a pas mal de territoires naturels aux alentours. Et à 20 minutes de là, il y a un endroit où je vais enregistrer depuis 1993. Chaque année, le printemps était magnifique avec beaucoup d'oiseaux, etc. Et aujourd'hui, à cause du changement climatique et du réchauffement global, en 2014, c'était la troisième année de la plus grande sécheresse de l'histoire de la Californie. C'est-à-dire en 200 ans, il n'y avait presque pas de précipitations, presque pas de pluie, pas de neige sur le sommet des montagnes, etc. Par conséquent, le paysage sonore en 2014 a été réduit drastiquement. Et j'ai un exemple de ça dans l'exposition. En 2015, cet endroit était complètement silencieux. Il n'y avait plus de chants d'oiseaux. Il y avait bien des oiseaux, on les voyait, mais ils ne chantaient pas. Et c'était la première fois en 77 ans que je n'entendais pas les oiseaux au printemps.
Vous dites d'ailleurs, Bernie Krause, que si l'écologie du paysage sonore se développe, ça peut être un outil pour deviner le futur.
C'est
bien ça. Ça peut nous aider à tracer une ligne à travers les époques. Rappelez-vous que le printemps, par exemple, commence maintenant 15 jours avant la date où il commençait, il y a 10 ans. Le changement est rapide et ça signifie que les oiseaux migrateurs qui arrivent pour trouver de la nourriture ne la trouvent pas parce que la nature est décalée. Alors certains d'entre eux meurent, et d'autres espèces déclinent aussi. Donc, si on est capable d'extrapoler sur la base de ce type d'études, ce que ça dessine ne nous rend pas optimistes. J'espère qu'on va trouver un moyen de remédier au problème, mais je ne le vois pas arriver, et ça m'inquiète beaucoup. Mais c'est toute l'idée de l'écologie du paysage sonore de pouvoir étudier ces problèmes et les commenter. Et parce que ces sujets sont tellement nouveaux, nous avons besoin des gens jeunes et nouveaux qui vont prendre le contrôle de la matière pendant que moi, je vais m'éloigner.
On sent que votre propos est écologique au sens presque strict, on va dire radical du terme, mais plus largement c'est politique. Dans votre livre, vous rappelez que un homme politique qui travaille avec Ronald Reagan a dit un jour, le bruit c'est le pouvoir.
What I'm talking about in that particular part of the book is that during Ronald Reagan's
ce dont je parle dans cette partie du livre, c'est ce qu'a fait Ronald Reagan pendant son double mandat. Il a embauché un gars qui s'appelait James Watt. James Watt était responsable de l'environnement dans un ministère.
Et
il a fermé le bureau de lutte contre le bruit en 1982, qui avait été fondé par le Congrès pour éliminer le bruit afin d'aider les citoyens à vivre dans un environnement un peu plus calme. Watt a décidé que c'était une perte de temps. Il a donc dissous cette organisation. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Le bruit, c'est le pouvoir ». Et plus on sera bruyant, nous, Américains, plus on apparaîtra puissant aux yeux des autres.
The more powerful we appear to be to others. It sounds like Donald Trump, doesn't he?
On dirait du Donald Trump dans le texte, non?
I wanted to tell you, is that still the case today? Is people thinking like that? Justement, j'allais vous dire, est-ce que les gens pensent encore comme ça aujourd'hui?
Oui, c'est vrai.
You think people like Donald Trump are on the same line?
Absolutely. Yeah, I don't think anything has changed. I think it's gotten worse.
Je pense que rien n'a changé. Je pense que c'est même encore pire à cause des médias, à cause de les choses deviennent folles. C'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe là où on habite. C'est inquiétant. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le Brexit.
Je crois qu'à la fin, c'est la conclusion de Chanson animale et Cacophonie humaine, donc qui paraît chez Actes Sud et Fondation Cartier. Vous dites, j'espère que en développant cette discipline de l'écologie du paysage sonore, la connaissance du son permettra de transformer les gens, que les gens se sentent transformés comme moi j'ai été transformé.
Quand j'ai entendu pour la première fois un paysage sonore de nature en 1968, pour moi, une écoute en stéréo dans mon casque, dans un parc, même si c'était encore un parc urbain au nord de San Francisco, ça a changé ma vie. L'espace, être dehors, entendre le son, se sentir bien d'être là. Si bien que j'ai décidé de trouver un moyen de faire ça tout le reste de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai développé toute une discipline nouvelle qui s'appelle l'écologie du paysage sonore.
Bernie Krause, bioacousticien californien, a enregistré la nature partout dans le monde. Et il est passé par la France pour parler donc de son livre « Chansons animales et cacophonies humaines » paru chez Actes Sud et coédité par la Fondation Cartier. La Fondation Cartier où vous pouvez aller voir l'exposition « Le Grand Orchestre des Animaux » jusqu'au 8 janvier. Et on vous invite à aller sur le site legrandorchestredesanimaux.com avec un casque sur les oreilles pour un jeu interactif pédagogique et élégant, guidé par la voix même de Bernie Krause. Et pour accompagner son propos ce soir, vous avez entendu dans l'ordre Diane's Family, l'enregistrement de Gori au Rwanda, le morceau Chicadas and Crickets and Owls avec la guitare du chanteur country Joe McDonald, un son intitulé Kenya Governor's Camp et un autre, le dernier, la Nightingale, en français Rossignol. Voilà, c'est ainsi que se termine la première de Supersonic pour la saison. Les invités de ce soir étaient la performeuse Violaine Lochu et le bioacousticien Bernie Krause. Si vous préférez écouter Bernie Krause en anglais, on vous met l'interview non traduite sur le site de Supersonic sur franceculture.fr. Et pour écouter les pièces de Violaine Lochu, allez la voir en vrai ici et là ou alors sur son site violainelochu.fr. C'est aussi le meilleur moyen de connaître les dates où elle passe sur scène. Et l'équipe de l'émission, c'est toujours Inès De Bruyne à la préparation et la coordination, Véronique Lamandour à la réalisation. Et ce soir au son, c'était Olivier Dupré et la voix de Bernie Krause était celle de Philippe Garbier. Les choses étant bien faites, justement, vous retrouvez tout de suite les nuits de France Culture. Bonne suite de nuit à vous, à la semaine prochaine. D'ici là, tendez l'oreille et portez-vous bien.